Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on va parler kashrout avec vous ce soir. Et c'est vrai que c'est dur de tenir les lois juives avec le temps qui passe. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une mode autour du vegan, autour de... Enfin bon, c'est devenu... Les juifs n'ont pas attendu la mode pour s'occuper de nourriture et de nourriture saine et qui doit construire un homme. Quelle est la permanence, en fait, de la cacheroute dans notre époque, aujourd'hui, à l'époque du vegan? Et vous m'avez dit quelque chose de très beau quand je vous ai appelé tout à l'heure pour parler de ce sujet, pour vous demander comment on ferait l'émission. Vous m'avez dit, il ne faut pas que la cacheroute cache la route. Et c'est exactement ça. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Rav Lemel.
Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, cette phrase que j'aime beaucoup n'est pas de moi, ah. Et je le précise, elle a été prononcée par Manitou, d'accord ? Rav Ashkenazi, donc, qui, comme on le sait, avait des formules parfois très percutantes, et en disant cela, eh bien, il nous renvoyait une réflexion fondamentale sur le rituel qui peut parfois nous faire oublier où se situe l'essentiel. Et donc, oui, c'est vrai que ces notions de kashrout, alors, on va les aborder cette semaine par Parashat Shemini, puisque c'est le texte de la Torah dans lequel on va en effet nous parler « Zot asher tochlu », voici ce que vous allez consommer, voici ce que vous n'allez pas consommer, les animaux que l'on va appeler par la suite kasher, mais que la Torah appelle « tamé »,« tahor », »,« pur », »,« impur », au niveau des oiseaux, au niveau des poissons. Et donc, il y a quelque chose même ici qui nous interpelle. Alors, évidemment, on va dire qu'il y a beaucoup de symbolique, mais c'est quoi au fond le principe fondateur? Et pour redémarrer sur cela, eh bien, j'aimerais commencer par la Torah à son début. Vous savez que lorsque Adam et Ève se trouvent dans ce que l'on va appeler le paradis, dans le Gan Eden, Dieu va s'adresser à Adam, et va lui donner cet ordre à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais de manière très curieuse, le verset s'organise de la manière suivante. Dieu dit à Adam, « Mikol etz hagan achol tochel, ou me etz adat tov varal o tochal » traduction, « de la totalité des arbres du jardin achol tochal, manger tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien de celui-là tu ne pourras consommer. » Il y a ici quelque chose de très surprenant, puisque si au fond ce que Dieu désire, c'est qu'on ne consomme pas cet arbre de la connaissance, eh bien, le texte n'avait qu'à nous dire, Dieu s'adresse à Adam, il lui dit, ben, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne consommes pas. Et par déduction logique, je comprends bien que si on m'a dit, de ça, tu ne peux pas manger, ben, du reste, oui. Ça, c'est déjà la première question. La seconde, c'est qu'en plus, le verset ne nous donne pas une autorisation. On a l'impression qu'il y a ici un impératif, achol tochal, manger, tu mangeras. On a une redondance des termes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, au fond, le monde est là pour qu'on en profite. Je te demande de profiter du monde dans lequel tu te trouves. Si je t'ai donné à toi, en tant qu'être humain, tant de capacités à vivre toutes sortes de plaisirs au niveau de tes sens, gustatif, l'odorat, enfin c'est incroyable. Quand vous voyez des vins cachers, vous avez des centaines de variétés. Chacun son goût, sa spécificité. Et nous sommes capables, avec notre équipement de percevoir toutes les subtilités de tous les goûts, l'odorat, le regard, le toucher. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'être équipé de toutes ces possibilités de ressentir tellement de sensations dans tellement de domaines? Et oui, Dieu nous a donné ça pour qu'on puisse réellement profiter du monde dans lequel on se trouve, mais parce que quand vous profitez du monde, eh bien vous éprouvez un sentiment de reconnaissance, et quand vous avez de la reconnaissance, vous renforcez le lien. Aussi bien vis-à-vis du créateur de l'univers que de la personne qui vous a permis de vivre cette expérience de plaisir dans un couple, et bien le conjoint qui a décidé de se mettre au fourneau, que sais-je. Alors, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux, mais dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il des choses qu'on ne peut consommer? Pourquoi existe-t-il des choses auxquelles on ne peut pas avoir accès? Et les maîtres du Talmud nous disent, attention, ne tombe pas dans cette erreur de t'imaginer que ce n'est pas bon. Parce qu'ils nous disent très bien, « Al-Yomar Adam Yafshi », que l'individu ne dise pas sur ce qui est interdit, « j'en peux pas, ça me dégoûte ». Non. « Efshi vefshi », qu'est-ce que j'en voudrais? Parce que si a priori tout le monde consomme, c'est que ça doit être a priori très bon. Ma et c'est que puis-je faire? C'est que le créateur de l'univers a dit que ce n'est pas pour moi. Donc déjà, et je fais une petite parenthèse au niveau éducation, pour les parents, faites attention, si je peux me permettre de le dire de cette manière, de ne pas décrire l'interdit comme étant quelque chose de dégoûtant, de mauvais, de pas bien. Parce que si un jour quelqu'un fait l'expérience, il va découvrir qu'au fond, ben, les crevettes, ça doit être pas mal, les fruits de mer aussi, le jambon de Parme, ben, au fond, si on en mange, c'est que ça doit être bon, le caviar. Et ça, c'est très important. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est la raison pour laquelle on ne parle pas de mal, mais on parle de permis et d'interdit. Vous savez, fumer une cigarette, ce n'est pas une bonne chose, mais quelqu'un qui fumerait une cigarette vendredi soir, il ne fait pas le mal. Mais s'il est juif, ça lui est interdit. Et donc, on va reposer la question, alors pourquoi c'est interdit? Et pour pouvoir explorer cela, on va réfléchir un tout petit peu plus sur un concept qui est celui des nutriments matériels et spirituels. Vous avez un maître qui s'appelle le Ra'avad, Rabbi Avram ben David de Poskier. Poskier est une ville dans le Gard, pas loin de Nîmes. C'est un contemporain de Maïmonide. Dans un de ses ouvrages, il va nous décrire comment on fait pour jeûner tout en mangeant. C'est une idée, je pense, que j'ai dû une fois aborder aussi dans le cadre d'une intervention, mais j'y reviens. Le Ra'avad nous dit, oui, on peut jeûner tout en mangeant. De quelle manière? Vous décidez de jeûner, mais vous allez manger quand même. Eh bien, c'est très simple. Vous avez une belle mousse au chocolat, elle est merveilleusement bonne, mais quand vous arrivez à la dernière cuillerée, vous ne la consommez pas. Vous la mettez de côté, et quelque part, vous avez jeûné. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez réussi à vous maîtriser. Quelque chose qui était juste du plaisir pour le plaisir. Et donc, cette notion de jeûne qui est la capacité de savoir réfréner un désir, eh bien, c'est inscrit ici. Et pour ceux qui diraient, mais on a gâché de la nourriture, et c'est là où on retrouve notre sujet, il faut savoir qu'il y a deux types de nutriments dans la nourriture. Il y a les nutriments physiques, mais les nutriments spirituels. Cette dernière bouchée que je n'ai pas consommée m'a nourri, mais différemment. Elle m'a nourri différemment parce que, au moment où je ne la consomme pas, eh bien, je nourris mon âme, je nourris cette dimension profondément humaine qui est à l'intérieur de moi, qui est de savoir faire preuve de retenue parce que je l'ai décidé. Eh bien, ces nutriments spirituels ne se situent pas juste dans cette capacité de savoir à un moment se poser une limite, mais aussi à l'intérieur même de la nourriture que la Torah nous propose de consommer ou nous demande de ne pas consommer. Car en effet, nous savons que l'humanité est aimée par le Créateur. C'est une Mishnah, c'est un texte dans les Pirkei Avot qui nous dit « Raviv ha'adam shenikra betzelem » « Chair est aux yeux de Dieu, l'humain qui a été créé à son image ». On parle de l'humanité. Et dans un second temps, « Ravivim Israël » il y a aussi une dimension chère au peuple d'Israël qui a en effet une mission particulière dans l'histoire qui est de révéler la présence du divin dans l'univers. Donc, l'humain en tant que tel, c'est l'humanité. Et après, il y a une singularité, une spécificité. Et Dieu dit au peuple d'Israël, sachez que l'âme qui est la vôtre ne doit pas être nourrie de certaines choses qui peuvent l'empêcher de se développer et d'aboutir et de faire aboutir l'histoire qui doit être la vôtre. Et cette notion-là, on la retrouve où? On la retrouve à l'intérieur même des versets de la paracha. Puisque dans notre paracha, donc dans le texte qu'on va lire demain à la synagogue, eh bien, le verset qui conclut toute l'histoire de ces nourritures permises ou interdites va nous dire Altitamu becholele venit metem bam. Ne vous impurifiez pas par toutes ces choses-là, venit metem bam. Et le terme de venit metem est très curieux et nos maîtres le traduisent par venit tamtem. La notion du timtum, c'est faites en telle sorte que cette nourriture que vous ne pouvez consommer ne soit pas l'élément qui va bloquer l'influx spirituel qui doit être présent à l'intérieur de vous. Traduit de manière différente, et c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez que l'étude de la Torah nourrit l'individu spirituellement. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Il faut savoir que la dimension spirituelle présente dans l'étude pénètre l'individu à travers ce que l'on appellerait dans un langage un peu plus kabbalistique des canaux. La nourriture non cachère bloque et ferme ces canaux, ce qui fait que le savoir reste au niveau de l'intellect, mais il n'est pas un élément qui nous fait grandir spirituellement. Et ça, c'est quelque chose de capital, de savoir que ce que l'on apprend, ce que l'on étudie, ce n'est pas juste une connaissance qui fait de nous, et je mets bien évidemment ce mot entre guillemets parce que sinon il pourrait paraître pas très sympathique, un intellectuel, mais cette connaissance et ce savoir sont là aussi pour nous transformer de l'intérieur, non pas juste à travers son enseignement, mais à travers quelque chose d'autre, qui est cette dimension de kdusha, de sainteté, qui est présente et qui pénètre et qui transforme l'individu, si tant est qu'il a envie d'être transformé par cela. Et le texte de la Torah nous dit, sachez qu'un des éléments qui empêche cette dimension spirituelle de pénétrer à l'intérieur de vous-même et qui va réduire le savoir à une connaissance, eh bien, c'est cette nourriture non cachère. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fait tellement attention à cette cache-route, même vis-à-vis des tout petits enfants. Pourtant, vous savez très bien qu'un petit enfant ne serait pas strictement sensu, obligé d'accomplir les commandements, vu qu'il n'est pas encore considéré comme un majeur. Alors, on les habitue. Pourquoi ? Parce que ça va faire partie de leur vie. Mais, a priori, un enfant qui mangerait quelque chose de non cachère, ben, on ne peut pas dire qu'il aurait une forme de responsabilité dans son acte, parce qu'il n'est pas encore majeur au niveau de la loi. Néanmoins, les Chachamim nous ont éveillés à cette nécessité d'être extrêmement vigilants sur ce que les enfants mangent alors qu'ils n'en auraient pas une obligation légale, j'ai presque envie de dire, parce que l'impact de cette nourriture sera présent dans leur capacité par la suite à recevoir la dimension spirituelle présente à l'intérieur du savoir, de l'étude et des mitzvot qu'ils vont accomplir. Et donc, à partir de cela, évidemment, on se retrouve dans quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire, ce n'est pas juste des rites. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est de réaliser qu'il y a plusieurs éléments présents dans le monde dans lequel nous sommes et dans la nature. Nous ne devons pas rester en surface. Nous devons comprendre qu'en effet, il y a d'autres choses qui sont présentes à l'intérieur, surtout de cette consommation qui va s'inscrire dans notre réalité physique et corporelle. Ce que je mange, ça devient une partie de moi. Et je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y a pas d'incidence. Vous savez, pour comprendre un tout petit peu plus cette notion, on va aller vers l'univers de ce que j'appellerais la psychologie. Dites à un enfant, de toute façon, tu es une nullité, on se demande même pourquoi tu es là. Jean-Jacques Goldman le dit dans une de ses chansons, juste quelques mots et le trouble de toute une vie. C'est-à-dire que on pense qu'on n'a pas fait grand-chose, mais en vérité, il y a une incidence qui va bien au-delà de ce que l'on imagine à travers ces mots. Alors aujourd'hui, la psychologie va nous décrypter qu'est-ce qui s'est joué. Il faut juste franchir l'étape d'après. Savoir que dans la réalité des expériences physiques que nous faisons, et plus particulièrement dans la nourriture, il y a des choses qui vont impacter. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah va nous demander d'être dans cette vigilance. Après, évidemment, pourquoi telle et telle et telle chose ? Ça, c'est dans l'étude que l'on va le découvrir. Et je vais juste vous donner cette symbolique bien connue de cet animal qui représente au fond le non cachère par excellence, qui est le chazir, le porc, car en effet, il est celui qui a les sabots fendus mais ne rumine pas. Or, nous savons qu'un animal, pour être cachère, doit avoir les deux caractéristiques. Et quelque part, il représente celui qui, structurellement parlant, présente de lui une image qui ne correspond pas à sa réalité. Parce que une image qui ne correspond pas à notre réalité, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous ne sommes jamais pleinement en cohérence avec ce que nous proposons et ce qui nous agite. Mais nous désirons un jour accéder à cette cohérence. Et ça, c'est la réalité de l'humain. Par contre, le porc, le chazir, eh bien lui, c'est dans sa structure, c'est-à-dire il fonctionne comme cela. C'est ce qu'on appellerait son identité première, d'un monde dans lequel ce qui est important, c'est ce que l'on verra de moi, et ce qui est à l'intérieur de moi, ben, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, ma propre réalité, bon, ben, du moment qu'aux yeux des autres, eh bien, ça suffit amplement. Comme c'est structurel, là, c'est impossible. Dans notre réalité à nous, c'est en effet une dynamique et un mouvement pour réduire le delta qu'il y a entre les convictions profondes qui nous agitent et l'image que l'on présente et la réalité de cette cohérence. Alors, vous voyez, il y a déjà derrière cet univers de la cache-route, justement, une route à découvrir qui n'est pas juste les bienfaits de la nourriture et le vegan, parce que oui, ce sont des choses intéressantes. Mais vous savez, vous parlez du vegan, c'est intéressant de voir quoi. Si vous avez beaucoup de personnes qui décident de manger vegan ou végétalien, elles n'ont aucun problème. Vous leur parlez de cache-route, c'est plus complexe. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le vegan, ils l'ont décidé. La cache-route, elle leur est imposée. Et ça pose toute la question de l'individu face à la parole divine et d'être prêt à un moment à accepter cette parole qui lui demande d'agir d'une certaine manière et à laquelle, même si le mot est fort, mais il est vrai, il va se soumettre. Et c'est là l'expression de la grandeur de quelqu'un qui accepte qu'une chose qui le dépasse radicalement puisse à un moment lui proposer et lui demander d'agir d'une certaine manière pour son plus grand bien.
Ça, c'est vraiment une notion que je n'ai jamais compris. Mais je cherche, hein. Je ne fais pas semblant. Mais j'ai bien compris. Pourquoi c'est plus fort quand c'est imposé que quand on le décide? Moi, je trouve que c'est tellement plus fort quand on décide d'être bon, d'être bien. Et c'est une idée, c'est un des fondements du judaïsme. Mais de sauver, c'est plus fort. Et par ailleurs, je me disais en vous écoutant que... non, moi, je m'est jamais arrivé de ne pas saucer la sauce, c'est super bon à manger. Mais par contre, parler moins, c'est dur. C'est mon métier. Savoir... parle un peu moins.
Alors, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai que ça c'est un autre sujet, le silence. Savoir faire silence, c'est être prêt à accueillir la parole des autres. C'est au fond... quelque chose qui va nous concerner aussi de manière très très forte, puisque certains de nos maîtres nous disent, avant de te préoccuper de ce qui pénètre dans ta bouche, réfléchis aussi à ce qui en sort. Oh. Et c'est vrai que ça aussi c'est un sujet, on va l'aborder d'ailleurs la semaine prochaine, allez, puisque la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on rentre dans la paracha de Tazria Metzora, de toutes ces vigilances que l'on doit avoir au niveau, justement, de ce qui sort de notre bouche. Et c'est intéressant que vous créez le lien, justement.
Magnifique, magnifique, c'est malgré moi. Allez, ben, on a rendez-vous alors.
Rendez-vous
vendredi prochain pour parler de la maîtrise de la parole. Rav Eli Lemel, je vous remercie, je vous souhaite un beau Shabbat et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et on part pour Jérusalem, où l'on retrouve Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai, bonsoir à vous.
Shalom, shalom,
Shabbat shalom. On est toujours un peu triste après les fêtes, non? Hein? On a l'impression d'avoir quitté un ami.
Oui, mais on se promène avec, hein. Vous savez comment c'est. On emmène un bagage, et toutes les provisions qu'on a prises pendant les fêtes, ce qu'on a intégré, ce qu'on a réfléchi, on a parlé surtout une fête comme Pessah, où en fait on parle beaucoup, c'est la bouche qui parle. On dit tellement de choses, on apprend tellement de choses, donc en fait on repart aussi avec beaucoup, beaucoup de force, et aussi beaucoup de projets. Voilà, moi je préfère regarder comme ça.
Allez. Et puis c'est un peu moins dur que Tishri. Tishri, c'est dur. Rav Mordechai Biton, on va... alors j'ai cassé le moral là. Vous voulez intervenir ce soir sur la paracha, évidemment, mais le lien avec Yom HaShoah qu'on a marqué cette semaine. En hébreu, Shoah, c'est quoi? C'est destruction totale, hein, c'est quelque chose comme ça, c'est catastrophe.
On préfère parler de Khorban, de destruction, comme on parlait de la destruction du temple, mais c'est le mot Shoah qui est passé, qui emporte une connotation de quelque chose d'un peu inattendu et en même temps de quelque chose de catastrophique et de complètement destructeur. Mais c'est que cette part d'inattendu que les rabbins n'ont pas eu, parce qu'effectivement, Et pendant le siècle qui a précédé la Shoah, il y a eu beaucoup de débats sur la situation du peuple juif en Europe. Et donc, on se souvient du Or Sameach, Rabbi Israël de Dvinsk, qui disait « Vous avez créé un nouveau Shulchan Aruch, un nouveau code de loi à Berlin, vous les réformistes, et de Berlin sortira un nouveau code de loi qui vous rappellera que vous êtes juif, et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et que vous n'êtes pas, vous deviendrez un jour persona non grata dans la société allemande. » Mais moi, je voudrais m'inscrire ici sur un point de la paracha. Vous savez que dans la paracha, on nous raconte la mort des deux enfants de Aaron, de manière totalement inattendue. Et là, ce qu'on voit, c'est que Aaron va être dans le silence. Alors, c'est intéressant parce que l'expression qui est utilisée pour parler du silence, c'est « vaïdom ». Il s'est tu, c'est un silence minéral. C'est-à-dire, c'est un silence qui ne supporte aucun mot, aucun son, rien. Comme si, en quelque sorte, il n'y avait pas, comme si c'est l'acceptation absolue et totale de la situation, en même temps une peine contenue qui doit s'exprimer, mais de cette manière-là. Donc, c'est tout à fait intéressant parce qu'il va très très bien avec cette actualité de Yom HaShoah. En fait, ce que la Torah nous apprend dans l'attitude de Aaron, c'est qu'en fait un individu doit savoir garder son sang-froid, son esprit, ses choix, ses valeurs, même dans les situations les plus catastrophiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus catastrophique que le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle dans les airs, le jour où la Shrina, la présence divine, va se poser sur le peuple, que de perdre ses deux enfants? C'est terrible. Et on voit que Aaron va adopter la position d'un silence minéral. Et c'est intéressant parce qu'après la Shoah, après la période donc de la destruction du judaïsme européen, la tentative de destruction du judaïsme européen, les débats ont fait rage. Et finalement, on a entendu dans les échos d'Elie Wiesel la question qu'on pose même pour le 7 octobre, où était Dieu, la justice divine, le destin du peuple juif, la souffrance du peuple juif. Et d'une certaine manière, bien que beaucoup de réponses aient été données, finalement, elles ont été dominées par cette idée qu'il y a une part de silence, même dans ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il y a dans la Shoah quelque chose d'inatteignable, quelque chose qui ne se comprend pas, quelque chose qui ne comprend pas au sens français du terme, au sens comprendre, c'est-à-dire rentrer l'objet qu'on scrute dans un cadre dans lequel on peut le comprendre, on peut le dominer. C'est vrai que les souffrances du peuple juif s'expriment de plein de manières, elles s'expliquent de plein de manières. Par exemple, si vous lisez le chapitre 8 du Deutéronome qui annonce toutes les malédictions qui frapperont à Israël, si Israël rompt l'alliance avec Hachem, vous voyez là-bas qu'il y a toute une série de malédictions qui se sont accomplies à l'époque de la destruction du Grand Temple et qui se sont accomplies pendant la Shoah. La même chose pour les malédictions qui sont marquées dans le Lévitique, dans Parashat Bechukotai, chapitre 6, la même chose aussi. On voit qu'il y a un cadre, il y a un cadre qui s'exprime et qui exprime la relation entre Hachem et le peuple juif et qu'à un moment donné, il est possible que si cette alliance est rompue, alors Hachem, lui, cherche à nous rattraper et comme dit la Gemara, il va lui mettre sur la tête un roi dont les décisions seront aussi dures que celles d'Aman. Mais il y a un vrai. Le Chazon Ish lui-même expliquait que lorsqu'on voulait expliquer la Shoah, c'est comme si on était un débutant des études talmudiques et on voulait expliquer les commentaires complexes de Tosfot. Comme si, en quelque sorte, il fallait s'imposer un certain silence. La même chose également par rapport à l'instauration d'un jeûne. On lui disait que le Taz, Rabbi David Halevi, tous les Arabes avaient installé un jeûne en commémoration, en souvenir des massacres, la médaille d'argent de l'extermination juive, Khmelnytsky, l'Ukrainien, de plus de 100 000 juifs en Ukraine, chez nos chers amis ukrainiens. Et il avait dit, le Taz a institué ces jeûnes, mais d'abord tout le monde n'a pas été d'accord, mais nous, on n'a absolument pas le pouvoir d'instaurer un jeûne. Parce que finalement, quand on instaure un jeûne, c'est que d'une certaine manière, on vit encore dans l'événement. On jeûne, par exemple, le 9 av, le jour de la destruction du Second Temple, parce qu'il n'est toujours pas reconstruit. Donc on jeûne essentiellement parce qu'il n'est pas encore reconstruit, parce qu'on n'a pas connu la délivrance finale. Et en fait, dans la Shoah, on ne peut pas installer de jeûne parce que ce qui a frappé cette génération concernait cette génération. Et qu'en fait, les enseignements que nous, on doit en tirer ne sont pas spécifiques à nos générations, mais plus par rapport à cette génération. Et donc, Razonis disait on ne peut pas instaurer de jeûne. Ah, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a, d'une certaine manière, une série d'explications, mais en même temps, elles ne vont pas jusqu'au bout. Ce qui domine par rapport à la Shoah, c'est le silence. Et de ce point de vue-là, je voudrais être peut-être un peu plus trivial, mais quand on se rend sur le site d'Auschwitz aujourd'hui, on voit que d'une certaine manière, c'est un site un peu bruyant, c'est un site un peu touristique. Il faut aller un petit peu plus loin dans les camps de Birkenau et dans d'autres où là, où on est sur les rails, on est seul et sous terre et dans l'air sont là les corps de nos frères qui ont été tués pendant la Shoah. Et là, on est happé par ce silence. Ouais, je crois qu'il faut savoir respecter ça. Dans tout événement dramatique que nous vivons, il y a cette part que le rabbin Maïmonide nous invite, qui est la part de teshuvah, la part de remise en cause personnelle et collective, la part du travail de deuil et du travail de remise en cause. Mais il y a aussi cette idée que finalement, nous ne maîtrisons pas Hachem, nous ne maîtrisons pas ses décisions, nous ne maîtrisons pas ses desseins. Donc il y a une part de silence qui doit s'imposer, qui montre d'une certaine manière que nous sommes capables à la fois d'accepter le digne, la rigueur, mais en même temps de regarder dans l'histoire devant nous et de reconstruire, comme l'a fait le rabbi Ponyovitch en 1943, de reconstruire malgré la douleur. Je vous rappelle qu'il était seul, il avait été envoyé par le gouvernement lituanien en mission. Entre-temps, la Lituanie a été occupée par les nazis. Il s'est retrouvé coincé en Israël avec son costume. Il est monté en haut d'une colline, il a tracé un tri, il a dit « ici, il y aura une yeshiva ». Il n'avait rien. En 1943, les gens lui disaient « les rêveux, il n'y a pas de bakhourim, il n'y a rien, on est en train de tuer tout le monde. Vous avez la yeshiva de Ponyovitch, et il y a une ville entière autour de ça ». Donc, d'une certaine manière, on l'explique, d'une certaine manière dans le silence, mais d'une autre manière aussi, et même aujourd'hui après le 7 octobre, et ça c'est une leçon qu'on peut tirer de l'attitude du rabbi Ponyovitch, c'est qu'on doit être dans la reconstruction. Aujourd'hui, un Israël est très morcelé. On doit chercher à reconstruire cette unité, ce dialogue, ce pont entre les gens, redonner de la force à les victimes des atrocités du 7 octobre, et puis d'une certaine manière se redonner entre nous, de la force, et non pas se lancer dans des polémiques stériles, comme on l'a vu ces derniers jours au sujet de la déclaration de Smotrich. Il faut aujourd'hui dépasser tout ça et aller avoir le sens du temps long, avoir le sens de l'histoire, avoir le sens de la spiritualité. Ce qui nous unit, ce qui nous rapproche, ce qui nous permet d'être ensemble, ce qui nous permet de reconstruire. Ça a toujours été l'attitude des grands dirigeants du peuple juif. Après la destruction du Second Temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai construit Yavne, il construit le Talmud, il construit cette Torah que nous avons portée. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on construit la diffusion de la Kabbalah et les grands centres de diffusion kabbalistique et de Torah en Turquie et en Israël. Et après la Shoah, on a reconstruit le monde de la Torah, on a reconstruit Eretz Israël. C'est là qu'il faut se situer. C'est là que le bruit peut se faire entendre, si je peux dire, sans perdre son temps dans des explications qui ne nous viendront pas de toute façon. Voilà, c'est une réflexion à cœur ouvert, je veux dire, pour faire ce lien avec cette actualité-là et la paracha.
Rav Mordechai Bitton, merci. Je voudrais aussi rappeler, mais je crois qu'on en avait parlé lors de notre dernier entretien, ce que signifie pour des dizaines de Juifs d'être enterrés vivants. Parce que moi, je sais que c'est l'un des cauchemars. Beaucoup de gens ont ce cauchemar, moi je l'ai. Enterrés vivants. Et ces gens, ils le vivent pas depuis deux jours ou trois. Ils sont enterrés vivants. Et ils le disent d'ailleurs. Ils disent, on est dans un truc bétumé et on est enterrés vivants. Quand ils parlent dans les vidéos, quand ils ont été libérés. Et donc, très très important de... Et quel silence, d'ailleurs. Et quel silence. Rav Mordechai Bitton, merci. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom. Alors Rav Gueh, vous allez nous inviter ce soir à réfléchir à des moments comme ça dans une vie qui sont terribles, où le meilleur arrive avec le pire. On a d'ailleurs déjà vu ça dans la Torah. Je ne sais pas, par exemple, Yitzhak n'est pas sacrifié, mais Sarah en meurt. Elle en meurt, elle n'a pas supporté le choc. Même jour, Avram vit les deux. Mais ce n'est pas de ça que vous voulez nous parler. Vous voulez nous parler ce soir de Aaron à Cohen, qui devient grand prêtre, donc top des honneurs et une tâche importante, quelque chose qui s'ouvre pour lui. Et donc, le même jour, Aaron arrive au maximum de ce qu'on peut, enfin l'un des maximums en tout cas, mais le maximum de ce qu'on peut proposer à un homme, mais c'est le même jour où ses deux enfants aînés meurent.
On va juste préciser, c'est Moshe Rabbeinu qui arrive au summum, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui va être le leader d'Israël, qui va donner la Torah, qui va sortir des Juifs d'Égypte. Aaron est le second par rapport à Moshe. La qualité principale d'Aaron, c'était justement de ne pas avoir été jaloux de son petit frère, qui n'a pas le même CV que lui. Lui, Aaron, a toujours été un prophète et une personnalité spirituelle de haut niveau reconnue par tous. Et Moshe, il s'est absenté pendant des dizaines d'années lorsqu'il a dû fuir le palais de Pharaon. Et il a priori, il est un inconnu. Et quand même, Aaron l'accepte totalement. Il est même fier et heureux de voir son frère accéder au poste qu'il aurait pu peut-être lui-même, auquel lui-même il aurait pu, on va dire, briguer ce poste. Et le fait que ce soit son frère, ça ne le dérange pas, il n'a aucune jalousie. C'est donc un cœur pur, un être très altruiste, qui ne cherche absolument pas à se mettre en avant, qui d'ailleurs ce jour-là, ce jour du Yom HaShemini, puisque la paracha s'appelle Shemini, le huitième jour après le début des cérémonies, donc en particulier des sacrifices qui sont apportés pour l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Ça dure 7 jours, le huitième jour, donc c'est Rosh Chodesh Nissan. Ce jour-là, c'est le passage des pouvoirs. Jusqu'à présent, c'était Moshe qui faisait le service divin, donc qui était le Kohen Gadol, par intérim, on va dire comme ça. Et ce jour-là, c'est l'intronisation d'Aaron, un Kohen, le grand prêtre Aaron, qui va commencer son sacerdoce. Il le commence avec beaucoup d'appréhension parce qu'il est un des acteurs du veau d'or. Il a organisé tout ce qui a été autour du veau d'or et il pense qu'il n'a pas le mérite pour être le grand prêtre. Donc il hésite, il apporte un veau expiatoire pour bien marquer sa volonté d'effacer cette tâche. Au début d'ailleurs, la présence divine n'apparaît pas. La nuée ne descend pas du ciel, il y a une véritable stress, une tension, puis finalement Moshe Aaron arrive à obtenir cette révélation divine, et là c'est la grande joie. Mais cette joie est ternie par la mort de ses deux fils, qui en voyant cette apparition divine, sont dans un état d'extase, et dans cette joie profonde et dans cet état donc, où ils sont véritablement dans le septième ciel, ils apportent des kétorettes, des encens qu'ils n'avaient pas, prévus, et ils meurent tout de suite. Donc deux filles sur quatre, Nadav et Aviou, qui vont mourir ce jour-là. Donc on a à côté un homme comblé par le fait qu'il va être le grand prêtre. Et le jour même où il est quelque part content d'avoir entendu, vu que Dieu lui pardonnait sa participation au veau d'or, ce jour-là, il perd ses deux fils. Nos sages nous disent que ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il devait perdre en fait les quatre fils. Moshe avait vraiment imploré la miséricorde divine, qui avait partagé en deux la sentence. On est passé de quatre morts à deux, donc il a perdu que la moitié de ses fils, mais c'est déjà énorme. Deux grands parmi les grands, Nadav et Aviou, qui vont mourir par une colonne de feu qui va rentrer dans leurs narines, et ça va évidemment entacher énormément la joie de ce grand jour de l'inauguration du tabernacle. Mais vous l'avez compris, c'est pas un hasard si ce jour-là ces deux notables sont morts. C'est que Akadosh Baruch Hu avait dit, comme le dit Moshe à Aaron, Bikrovai et Kadesh. Je savais, dit Moshe à Aaron, son frère, je savais que ce jour-là, il y aurait des morts, il y aurait des victimes. Je pensais que ce serait ou toi ou moi. Finalement, ce sont tes deux fils. C'est donc une preuve qu'ils sont plus grands que toi et moi. Donc Aaron entend cette phrase, il se tait, ça veut dire qu'il se tait parce qu'il accepte ce décret divin, il l'accepte totalement, sans réserve, alors que c'est un très très lourd tribut qu'il paye, mais il comprend que c'est un mal nécessaire, parce que même si ses deux fils ont fait une faute, c'est sûr, et les sages nous disent qu'ils ont fait encore d'autres fautes, mais le fait est que cette punition paraît très sévère, très rapide. Et c'est ce qu'on appelle le jugement de Midat Adin, c'est-à-dire lorsque Akadosh Baruch Hu applique la rigueur dans toute son exigence absolue. Et ça montre en fait la qualité de ces deux personnages, qui est effectivement des grands parmi les grands, et à qui Akadosh Baruch Hu ne pardonne rien, ne laisse rien passer, mais c'est aussi surtout un message pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent un peu trop intime et proche d'Akadosh Baruch Hu, il se révèle à nous, il apparaît dans les nuées qui remplissent le tabernacle. Il y a un risque de familiarité et un sentiment peut-être aussi de se dire nous sommes arrivés, nous avons les mérites qu'il faut, nous sommes au top et on risque de s'oublier. Et sachant que le tabernacle, ce qui est le, on va dire, l'ingrédient, le mode d'emploi du tabernacle, c'est avant tout la notion du corban. Le corban étant l'humilité et la capacité de se faire tout petit devant l'immensément grand Hachem. Si on n'est pas capable, devant le dévoilement divin, de se faire très très petit, et qu'au contraire, on se dit très fier et très grand de mériter ce dévoilement, c'est effectivement un grand mérite. C'est un grand mérite sans aucun doute, mais il faut que pour pouvoir continuer à l'avoir et le perdurer, garder une grande humilité, ce qui n'est pas évident, et ne pas croire qu'Hachem est notre petit ami que l'on peut, à qui on peut taper avec les mains dans le dos. C'est un être exceptionnel. Il faut garder une distance, il faut ce qu'on appelle la yira, la crainte. Et comme le dit Rabbi Tzadok HaKohen, le fait que les sages reprochent à Nadav et Avihu d'être entrés en ayant bu du vin, c'est parce que justement ils se sentaient extrêmement heureux, profondément heureux de cette venue d'Hachem. J'ai parlé d'extase. Eh bien, il manquait une retenue. Il manquait de la retenue qu'on appelle la yira, la crainte, une certaine crainte révérentielle. Et du fait que ça a manqué, ça a été, on va dire, puni très sévèrement. Et aussi parce que c'était un message à tout le peuple juif en leur disant « Attention, ne vous approchez pas. Attention, gardez la distance. Attention, comprenez bien de quoi il s'agit ici. Ne croyez pas que vous pouvez être, on va dire, dans la convivialité absolue, dans la proximité sans limite. Il y a une distance à garder, ce qui est évidemment bien normal. » On le voit même avec des êtres de chair et de sang. Les rois ont un droit de vie ou de mort sur leur sujet. Les rois ont tout un protocole qu'il faut respecter dans le palais du roi, et d'ailleurs pas seulement dans le palais du roi. Et si on ne respecte pas le protocole, eh bien la sanction est tout de suite appliquée et c'est la peine de mort. Ce qu'on appelle les crimes de lèse-majesté. Donc HaKadosh Baruch Hu ici veut montrer, attention, je viens généreusement m'installer parmi vous, mais gardez la distance, attention. Et c'était même indispensable que ce jour-là, les Juifs comprennent que pour pouvoir perdurer dans cette relation tout à fait particulière, il faut garder cette distance. Et en fait, Aaron, comme le disait, qui est un cœur pur, qui a des midotes exceptionnelles, qui est l'homme du shalom, il comprend que le prix à payer pour que justement la présence divine soit installée durablement parmi nous, c'est peut-être aussi cette mort qui va choquer tout le monde, mais qui va nous permettre un petit peu de réaliser combien nous devons garder une certaine distance lorsque nous sommes en proximité avec Hachem. Alors, je voulais faire remarquer à la communauté que la phrase qui est « Vechol Bet Israël Yivku et Asrefa Hachassar Hachem », tout le peuple juif, la maison d'Israël, pleurera pour ce feu, cet incendie. On parle évidemment de la mort des Nadav et Avihu qui sont morts par le feu. C'est une phrase que nous disons lorsque un grand maître, un grand tzaddik quitte ce monde. Alors cette semaine, le Rosh Hashiva de Kisser Achamim, le Rav Meir Mazouz et Zatzal, et nous a quittés. Et là aussi, nous avons ce sentiment d'avoir été abandonnés par ce grand tzaddik qui avait une Torah de très très haut niveau et qui représentait avec toute sa splendeur le judaïsme tunisien, puisqu'il il a vécu à Tunis. Et cet homme donc qui nous a quittés, c'est justement, ça nous fait penser un peu à Nadav et Avihu, à tous ces grands hommes qui, lorsqu'ils nous quittent, c'est en fait Hachem qui nous envoie un petit message, enfin un grand message, qui nous secoue et qui nous dit attention, le monde, même des tzadikim disparaissent, même des tzadikim partent, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler que la Torah attend de nous beaucoup de choses, que ces grands hommes sont là pour nous donner un exemple, et que si on ne les a plus, c'est qu'on n'a pas le mérite de les avoir. Et donc c'est quelque chose qui va nous faire réfléchir, et puis aussi nous faire réfléchir sur ses qualités, sur ce qu'il a été, pour essayer soi-même de grandir, et de s'améliorer en rappelant les différentes qualités de cet homme exceptionnel qui est parti exactement la semaine où on parle de la disparition d'Adam Aviou. Et je rappelle aussi à la communauté qu'il est écrit que le jour de Kippour, on lit Vayehi Acharemot Bnei Aaron, c'était le début du verset de Acharemot où on parle de Kippour. On cite la mort des fils d'Aaron en demandant au Tzibour, à tout le monde, de pleurer un peu en se rappelant la disparition de Adam Aviou, parce que c'est une disparition qui peut apporter la capara aussi, l'expiation, si on prend conscience du manque que nous avons de présence de grands maîtres qui nous inspirent. Et c'est l'occasion pour nous d'aspirer justement à un retour, ce qu'on appelle le triatamétime, la résurrection des morts, pour retrouver toutes ces forces spirituelles qui étaient portées par ces hommes, qui étaient incarnées par ces hommes, et qui nous manquent tant aujourd'hui pour nous permettre d'avancer. Et c'est notre petit Mishkan, notre petit Beit HaMikdash, ces hommes qui portent sur eux la Shekhina et qui partent les uns après les autres, parce que voilà, tout simplement, une génération part, mais je l'espère et j'en suis sûr, une autre génération se prépare à briller et à nous éclairer également.
Amen, amen, amen. Rav Guay, on va réfléchir à tout ce que vous venez de nous dire, y compris à la valeur de la vie, en fait. Et on repensera à ce grand sadique, le Rav Mazouz, qui était déjà bien, j'imagine, avec ce nom de famille. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Et on se retrouve à 18h pour un point info qui est enregistré.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shav shokat shoyim.